J'aimerais partager avec vous un temps de réflexion sur la question, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? De plus en plus, il y a des émissions et ça se multiplie, des reportages, des débats sur des procès. N'est-ce pas? Il est question maintenant, il semblerait, d'autoriser la retransmission vidéo des procès. Jusque-là, les caméras étaient interdites dans les tribunaux. Mais il semblerait qu'il y ait une volonté de permettre, en réalité, de voir, d'entendre et de réaliser que la justice, elle est amenée de la bonne manière, qu'elle est équitable, qu'elle est transparente. Alors certes, on ne peut pas prendre une caméra et revenir dans le passé, mais j'aimerais faire avec vous un saut dans le passé pour regarder un procès qui a été quand même assez, et encore aujourd'hui, on en parle beaucoup. C'est celui de Jésus. Et il y a la question qui est venue sur mon cœur alors que je réfléchissais à ce texte, mais pourquoi lui? Alors, je vous dirai de qui et pour qui est cette question et pour quelle raison. Mais faisons une lecture ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, versets 13 à 34. Luc, chapitre 23, verset 13 au verset 34. Pilate convoqua les principaux sacrificateurs, les chefs et le peuple, et leur dit: Vous m'avez amené cet homme comme entraînant le peuple à la révolte. Voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai pas trouvé coupable d'aucune des fautes dont vous l'accusez. Hérode, non plus, car il l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. À chaque fête, il était obligé de le relâcher un prisonnier. Et ils s'écrièrent tous ensemble: fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur adressa de nouveau la parole avec l'intention de relâcher Jésus. Mais ils criaient: crucifie, crucifie, crucifie-le. Et Pilate leur dit pour la troisième fois: mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir fait châtier. Mais ils insistèrent à grands cris en demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Pilate rendit un arrêt conforme à leur demande. Il relâcha celui qui avait été jeté en prison pour une émeute et pour un meurtre, et qu'il réclamait, mais il livra Jésus à leur volonté. Comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celui-ci se frappait la poitrine et se lamentait sur lui. Et Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira: Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. Alors, on se mettra à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, il est crucifié là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Premier constat, c'est qu'on a trois courants principaux. On a ceux qui, en réalité, après avoir examiné les preuves, après avoir entendu les différents témoignages, après avoir encore une fois essayé de districter tout ce discours, tous ces langages, toutes ces paroles qui dépassaient les règles de la justice, puisqu'il était question de foi, vont finalement considérer que Jésus n'est pas coupable. On va les appeler les pour qu'ils soient libérés. pour qu'il puisse finalement rentrer chez lui, certes, après avoir été châtié, histoire de montrer que quand même la justice ne prend pas les choses à la légère, mais les techniciens de la justice, conscients de la vérité, et après avoir bien interrogé les différentes parties, à plusieurs reprises, considèrent que Jésus n'est pas fautif par rapport à ce qu'on lui reproche. Le deuxième courant, c'est les contres. Et on le voit dans ce texte, c'est ceux qui s'écrient tous ensemble, « Fais-le mourir ». On voit qu'il y a une position qui est très arrêtée. Il n'est plus question de réexaminer l'état des choses et de se dire « Et si on s'était trompé ?» Est-ce que ça vous arrive parfois de réexaminer certaines décisions pour vérifier si vous avez fait le bon choix ? Oui ou pas ? Et pourquoi ? Parce que l'erreur est humaine. Et malgré tous les soins qu'on peut mettre, on peut parfois manquer de certaines informations ou on peut avoir, malheureusement, certains préjugés. Très souvent, ce qu'on a pu entendre avant, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux, a tendance à nous amener à prendre une position. Et seulement après avoir véritablement eu le temps d'examiner les différentes preuves, on peut se dire « ce que j'ai entendu était vrai, ce que j'ai entendu, c'était pas forcément vrai ». D'ailleurs, encore aujourd'hui, on sait très bien que les médias et toute l'information qui peut être faite suite à un cas peuvent nous amener à prendre une position sans avoir vu la moindre preuve. N'est-ce pas ? Il suffit d'entendre une chose et tout le monde... Imaginez que demain, on lance une alerte. Hein ? Il y a un ours blanc qui se promène à Arles. Ça serait gros, ça, non ? Un ours blanc, quand même. Vu que dernièrement, on a eu des taureaux, pourquoi pas les ours blancs ? Combien de personnes prendraient ces paroles au sérieux et commenceraient à s'enfermer à la maison ? Et le moindre bruit, même si c'est le voisin ou peut-être quelqu'un de la famille qui ronfle dans la chambre à côté, il aurait le sentiment que l'ours blanc, finalement, il est rentré, il a trouvé un moyen, non ? Et la peur pourrait prendre place. Et on a beau dire que c'était juste pour rire, le doute, quand même, continuerait à rester. Un jour, quelqu'un il a dit « Prenez une poignée de farine, jetez-le par terre, essayez de le récupérer dans sa totalité, vous y arriverez jamais. » Et encore aujourd'hui, on sait que un certain pouvoir est amené par ceux qui ont tendance à crier plus fort, par ceux qui ont tendance à ne pas laisser parler les autres, comme s'il détenait toute la vérité. Alors, ils ont un rôle qui est celui d'influencer. Et malheureusement, parmi la foule, le peuple qui était là, on lit très bien qu'ils se sont laissés influencer au point de décider de faire mourir quelqu'un qui n'a commis aucune faute et de laisser libre quelqu'un qui malheureusement a agi d'une manière injuste puisqu'il a été reconnu coupable d'une émeute et d'un meurtre. Qu'est-ce qu'on n'aurait-il pas dit d'une chose pareille, n'est-ce pas ? Et après, il y a un troisième courant. C'est le courant de ceux qui ne savent ni si c'est vrai, ni si c'est pas vrai. Je dirais le courant des neutres. Et d'ailleurs, c'est pour cette question-là que j'ai passé quelques heures pendant la nuit, quelques heures blanches. Parce qu'il est question, il dit le texte au verset 26, « Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. » Si cet homme, il s'était considéré étrange à toute cette discussion, il était parti s'occuper de ses affaires, il était en train de travailler ses champs, c'est parce qu'en réalité, il voulait rester neutre dans la situation. Dans la ville, certainement, tout le monde parlait de ce Jésus. Et les uns disaient, mais moi je l'ai rencontré, il m'a même guéri. Jésus, mais oui, on a mangé des pains et des poissons de la multiplication. Ah, mais qu'est-ce qu'on lui reproche maintenant? Ah, comme quoi on peut vite tourner mal, hein? Non? Et les autres qui disaient, ah, finalement, c'est la fin. C'est la fin de cet homme qui mettait à fer et à feu la foi. Celui qui se présentait dans le temple pour enseigner autrement. Celui qui parlait de la grâce en oubliant la loi. C'est fini. Un peu d'ordre qui revient. Et cet homme, lui, il est parti au champ. Et pourtant, quand il revient, c'est à lui qu'on demande de porter la croix. Et c'est là que je me suis posé cette question. Mais pourquoi lui? Non? Si on avait demandé à ceux qui sont pour, qui aurait voulu la liberté pour Jésus ce jour-là? Oui? Qui aurait dit, mais Jésus n'a rien fait? Non. Vous. Et imaginez qu'à un certain moment, malgré les efforts et les paroles que vous avez pu prononcer, on vous dise, écoute, voilà, ça a été décidé. Viens porter la croix de Jésus. Malgré tout, on aurait dit, ah, j'ai été à quelque part considéré digne de faire quelque chose d'incroyable, n'est-ce pas? Quel honneur de porter la croix qu'en réalité, c'est la croix qui symbolise le sacrifice de Christ. Et si au départ, on aurait été pris par ce sentiment, oui, de reconnaissance, est-ce que par le temps, ça n'aurait pas devenu le sujet de toutes nos discussions en disant, mais tu sais qui je suis? Je suis celui qui a porté la croix de Jésus. Et on risquerait de tomber dans une forme d'autosuffisance, voire même, oui, d'orgueil. Si ça avait été, par contre, une personne qui était contre Jésus, il aurait probablement commenté cela en disant que Dieu, s'il existait, il aurait dû empêcher une telle injustice. Pourquoi lui? Pourquoi lui demander d'amener cet objet qui est symbole de condamnation, qui est symbole de malédiction? Ce n'était pas à lui de le porter, ce Jésus qui porte lui-même le fruit de ses fautes et de ses erreurs. S'il en est là, c'est parce que certainement il a fait quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il l'a fait. Non? Et là, encore une fois, ça aurait été la faute de Dieu. Comme on est, en tant qu'être humain, très souvent capable de dire que tout ce qui arrive, tout ce qui nous dérange, c'est la faute de Dieu. Nous, on fait, on défait, on juge, on prend des décisions et après, on voudrait que Dieu vienne derrière nous, excusez-nous, avec la balayette pour ramasser les petits morceaux et refaire le vase que nous avons cassé. Et allez, il y a après le troisième courant, le neutre. Combien aujourd'hui se considèrent neutres? Ils ne veulent rien savoir ni d'une manière ni d'une autre. Moi, je ne dérange personne, je n'embête personne et je ne veux prendre de position pour personne. Et alors c'est justement à cette catégorie-là que Dieu a fait de manière qu'il porte la croix. De cette manière-là, il ne serait pas dans le fait de se glorifier. Il ne pourrait pas dire que c'est la faute de Dieu, mais certainement, il est question de prendre une décision. Alors, il pourrait considérer, finalement, en portant cette croix, l'injustice qui a été perpétrée envers Jésus, en le condamnant injustement. Non? Quand on se trouve dans la condition de quelqu'un d'autre, on réfléchit autrement. Un jour m'a dit quelqu'un qui venait des États-Unis, si tu veux connaître quelqu'un, vraiment, emprunte-lui ses chaussures et fais quelques kilomètres avec. Tu comprendras pourquoi il marche d'une certaine façon. Peut-être que dans sa chaussure, il y a un trou. Peut-être que dans sa chaussure, il y a un caillou. Et il t'expliquera pourquoi il a si de difficultés à avancer au même rythme que le tien. Et là, probablement, cet homme, il a dû se dire, « Oh, c'est quand même lourd. C'est quand même injuste, d'autant plus que le pauvre, il a été frappé. Comment porter une telle croix ? Comment demander à quelqu'un de juste de porter un tel fardeau ?» Il aurait pu finalement prendre aussi conscience du salaire du péché. Non ? Vous savez, on se rend compte, en effet, une fois qu'on est puni de quelque chose, on se rend compte que, voilà. Qui d'entre vous a déjà pris un PV ? Dites la vérité, quand vous l'avez reçu, vous étiez heureux. Vous avez été joyeux, vous avez invité votre voisinage à prendre avec vous un gâteau et à ouvrir peut-être même, voire une bouteille de champagne pour dire, voilà, je fête quelque chose de merveilleux, j'ai eu un PV. Ou est-ce qu'au fin fond de votre cœur, vous vous êtes dit, ok, je ne suis pas content, mais j'aurais jamais dû dépasser les limites, non ? Mais jusque-là, vous avez peut-être dit, mais c'est pas grave, 105, 125, c'est pas grand-chose, 135 non plus. Mais quand vous recevez 155 de PV, alors là, vous vous dites, c'est quand même quelque chose. Et on voit dans cette attitude, dans la réflexion de cet homme, qu'à un certain moment, certainement dans sa tête, il y a plein de choses qui ont dû bousculer un peu son raisonnement pour l'amener à faire un choix. Alors certes, vous ne trouvez pas écrit ça dans la Bible. Mais il y a quelque chose qu'on trouve écrit dans la Bible. C'est qu'à un certain moment, Jésus a été amené jusqu'au calvaire et avec lui, deux brigands. Et ces deux brigands représentent les deux choix possibles. Il n'y en a pas trois de choix. C'est pour cela que c'est important et le désir de Dieu aussi que celui qui jusque-là n'a pas forcément pris le temps de réfléchir se pose les bonnes questions parce qu'on doit faire un choix. Le choix est inévitable. Et d'ailleurs, Jésus se trouvera avec un brigand à droite et un brigand à gauche. Les deux choix vont être là et Jésus va être au milieu. Et le premier, il fera un choix terrible. Il se moquera de Jésus. Il dira à Jésus, mais si tu es véritablement le Fils de Dieu, descends, fais-nous descendre avec toi et allez, on rentre tous à la maison. Il ne veut pas assumer ses responsabilités. Mais le deuxième choix, qui n'est pas un deuxième choix parce qu'il n'y a pas d'autre choix à faire, mais parce que c'est le plus difficile, c'est celui de reconnaître ses fautes. C'est difficile de reconnaître ses fautes. C'est bien plus aisé et plus facile de dire, moi, je ne suis pas coupable. Sans rien enlever et sans rien juger, je vous assure, j'ai eu l'occasion de rendre des visites dans les prisons. Et je ne sais pas pourquoi. Un très grand nombre de ceux qui étaient là, ils m'ont dit qu'ils étaient là, mais c'était injuste. Ils n'avaient rien fait. Et moi aussi, combien de fois j'ai pu dire à mes parents quand j'étais enfant et j'ai fait des bêtises, qui, moi ? Ben non, pas possible. C'est pas moi, certainement pas. C'est peut-être quelqu'un d'autre. Combien de fois, face aux preuves, on a pu continuer à garder notre position, comme on dit, droit dans ses bottes ? Pour dire, moi, je n'ai rien fait. C'est pour cela que je dis que c'est beaucoup plus difficile de prendre ses responsabilités et de dire, moi, je suis fautif. Et d'ailleurs, ce deuxième homme fera ce choix en disant au premier, mais comment peux-tu parler ainsi ? Nous, si on est là, c'est parce que c'est normal. Mais lui, il n'a rien fait. Et c'est là qu'en se tournant vers Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Deux choix. Pas trois. Deux choix. Et Jésus dira à cet homme qui aura le courage de prendre ses responsabilités, il lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel. C'est beaucoup mieux de prendre nos responsabilités. La vie m'a appris que c'était mieux de dire la vérité à mes parents. Mon père, il me disait, tu dis la vérité dès le départ, ça se passera beaucoup mieux que si tu mens, parce qu'autrement, après, ça sera double pénalité. Non? Vous avez eu les mêmes discours de vos parents? Ah oui, il doit y avoir certainement un guide du parent pour comment parler à ses enfants. Non? Il y a un guide de Dieu qui nous dit comment Dieu nous parle. Et le langage de Dieu n'est pas un langage confus. Il ne nous dit pas que c'est bien quand on a fait mal, et il ne nous dit pas qu'on a fait mal quand on a fait bien. Je me rappelle d'une rencontre avec un homme, avec ses enfants, et cet homme, il était orgueilleux de voir ses enfants et heureux de voir ses enfants faire des bêtises. Il était heureux quand il voyait ses enfants se battre avec les autres. Jusqu'au jour où un de ses enfants a tué quelqu'un. Et là encore, il considérait qu'autant que père, il devait être fier de ses enfants. Ça n'a pas aidé son fils à se reconstruire. Ce garçon a continué à avancer dans sa vie en portant le fardeau de ce qu'il avait fait. Et un jour, il m'a dit, si seulement mon père m'avait dit de ne pas faire ces choses-là, peut-être. Ce n'est pas la faute de mon père, mais il m'aurait peut-être sauvé. Dieu nous dit ce qui peut nous sauver. Mais encore à nous de l'écouter, n'est-ce pas? Et quand je dis que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que deux choix, c'est que la réalité, elle est là. Est-ce que vous voyez un troisième homme en disant « moi, je suis le neutre » Ce n'est pas un souci. Quoi qu'il arrive, moi, je serai quand même bien parce que je n'ai fait de mal à personne et je n'ai pas pris de position. Peut-être que vous-même, vous vous dites dans la vie, c'est mieux de ne pas prendre position pour les uns et les autres, mais volontairement ou involontairement, on prend position. Regardez, Matthieu 27, verset 22-25. Vous vous rappelez de cet homme Pilate, hein, qui avait reconnu que Jésus n'était pas coupable. Il dit, le texte de Matthieu, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Ce n'est pas le fait de considérer qu'on peut se laver les mains que pour autant on ne porte pas la responsabilité, surtout si on sait la vérité et qu'on comprend véritablement que cette vérité, elle doit être défendue, n'est-ce pas? Pas seulement pour nous, parce que vous voyez, ce que le peuple dira, c'est que le péché et le poids du péché ne sera pas seulement pour eux, mais aussi pour leurs enfants. Ça interpelle tout ça. Matthieu 27, versets 22 à 25. Alors Jésus va parler. Jusque-là, Jésus est resté très en silence. Il aurait pu se défendre, il ne l'a pas fait. Et là, pendant que Jésus marche, et il y a ces femmes qui pleurent derrière lui parce que c'était coutume. Il y avait des pleureuses. Ça existe encore aujourd'hui. Parfois, c'est que des larmes de crocodile. On pleure quand on a quelques difficultés. Dès que la difficulté est écartée, on s'essuie les larmes et on reprend notre vie. C'est un peu comme ça, non? C'est comme l'enfant qui frappe des pieds parce qu'il veut quelque chose. Et une fois qu'on lui a donné, mais c'est instantané. Les larmes, elles se sèchent en automatique. Moi, je disais à mes enfants, arrête parce que tu pleures à sec. Il n'y a même pas de larmes. « Mais non, papa, regarde !» J'ai dit « Non, non, tu pleures à sec. » Et vous savez, on est tous un peu comme ça. Alors, c'est certes, regarder sur nos enfants, c'est très facile. Mais Jésus dira « Car voici, des jours viendront où on en dira heureuses les stériles. » Heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité, alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous, car Si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? De quoi parle-t-il Jésus? Il y aura des temps tellement difficiles qu'on se posera la question, est-ce qu'est-il sage de mettre au monde des enfants? Vu la violence, vu la méchanceté, vu tout ce qui se passe autour de nous, est-ce qu'y a-t-il véritablement un acte de sagesse de mettre aux enfants au monde? Telle sera l'inquiétude pour l'avenir de nos enfants. Et Jésus leur dit, ces temps, ils vont venir. Ça vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un vous dire, avant de mettre un enfant au monde, il faut réfléchir parce que quand on voit ce qu'on voit et on entend ce qu'on entend, on dit ce qu'on dit. Non ? Et Jésus dira, mais si l'on fait cela, un bois vert, si quelqu'un comme ça, jeune, on vit des choses si terribles, qu'est-ce qu'on fera au bois sec? Qu'est-ce qu'on fera à ceux qui ont déjà un certain âge, une certaine vie? Quelle va être la conséquence? Et dira, vous allez demander à Dieu de faire tomber les montagnes sur vous. Parce que le poids des fautes à un certain moment va être tellement visible qu'on cherchera à se cacher. Mais comment se cacher du regard de Dieu? Même si on choisissait la nuit la plus sombre, dans les profondeurs de la terre, où il n'y a aucun trait de lumière, même là, Dieu nous voit. Vous vous rappelez les paroles de ces personnes qui ont dit « Crucifie-le et que le péché tombe sur nous et nos enfants ». J'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que les raisons qui ont amené certainement Dieu à faire que le choix tombe sur cet homme, il s'appelait comment d'ailleurs ? Simon de Cyrène. Vous savez, dans le livre, dans la lettre aux Romains, on retrouve quelque chose, puisqu'il est question de cet homme dont la parole de Dieu nous parle, parce que dans l'évangile de Marc, il nous est dit, ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant revenant des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, dit Marc chapitre 15, verset 21. Et dans la lettre aux Romains, au chapitre 16, le verset 13, qui est-ce qu'on retrouve? Rufus, le fils de Simon. Et dit, saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur et sa mère, et aussi qui sont les miens. Tel a été l'impact pour cet homme de réaliser qu'en réalité, la croix que Jésus était en train de porter était la condamnation qui devait tomber sur sa vie, qu'il a fait un choix. Il a choisi Christ plus que le monde. Il a choisi à un certain moment de ne pas rester neutre parce qu'on ne peut pas rester neutre. Il a fait un choix dans sa vie, ce qui a eu un impact dans sa famille. Le choix que nous faisons a certainement aussi un impact. En tous les cas, ouvre toutes les portes aussi à nos enfants pour s'approcher de Dieu. De la même manière que si nous nous fermons les portes, nous rendons bien plus difficile à nos enfants de changer de direction. Pourquoi ? Parce que nous sommes le premier exemple. Hier, je parlais avec un couple hier matin en visite et ils me racontaient une histoire, leur témoignage, comment ils ont rencontré le Seigneur. C'était un homme qui avait été à une réunion. Cet homme avait une vie complètement dissolue. Il trompait sa femme, il avait une maîtresse et cela durait depuis des années. Jusqu'au jour où il est allé à une réunion, et là on lui a parlé de Jésus, de l'amour de Christ, du poids du péché, de la condamnation du péché. Cet homme, ayant pris conscience de la réalité dans laquelle il vivait, il a demandé pardon à Dieu et il a changé de vie. Il a arrêté sa liaison. Il est revenu auprès de son épouse qui, en effet, l'avait invité à venir à l'église parce qu'elle allait se baptiser. Il lui a dit, est-ce que tu pourrais au moins venir à mon baptême? Je ne te demande pas grand-chose. Viens au moins à mon baptême. Et cet homme, au jour du baptême de sa femme, lui, il a été transformé. Et cet homme a voulu amener à l'église son ancienne maîtresse en disant, tu sais, toi aussi, tu as besoin de Dieu. Mais cette femme, elle n'en a pas voulu. Par contre, Dieu a commencé une œuvre dans la fille de cette femme. Et après, dans le mari de cette femme. Pour finalement arriver un jour aussi au cœur de cette femme. Et il y a eu encore d'autres personnes qui se sont converties à cause de ce changement. C'est pour cela que je dis que quand on ouvre la porte de notre cœur, on est loin d'imaginer ce que ça peut produire dans les générations qui viennent derrière nous. Il est question pour nous de faire un choix. Celui qui était neutre jusque-là, certainement a fait un choix. Et nous? Et vous? Quel choix faites-vous? Pour ou contre? Certes, on ne peut rien changer au verdict, mais ça peut tout changer pour nous. Parce que je vous rappelle cette phrase, et je vais appeler ça le plaidoyer du juste. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus était en train déjà de faire un plaidoyer pour vous et moi. Et si jusque-là, on ne savait pas, aujourd'hui, on sait. Et si jusque-là, on pouvait peut-être se considérer encore neutre, aujourd'hui, quel qu'il soit le choix que nous faisons, nous avons fait un choix. Parce qu'on devient ou pour ou contre, mais on ne pourra pas rester neutre. Si vous avez besoin de plus pour finalement prendre une décision, moi je voudrais vous inviter à demander à Jésus de se révéler à vous. Parce que qui mieux que lui pourra vous dire ce qu'il a fait pour vous? Qui mieux que lui pourra vous dire ce que véritablement vous avez besoin? Et vous savez, il ne vous parlera pas avec de l'approximatif, il connaît exactement qui vous êtes et ce que vous faites. Rien n'est caché au regard de Dieu. Mais est-ce que vous aurez, vous aussi, le courage juste de dire, ok, je vais essayer de porter cette croix pendant quelques mètres. Je veux moi aussi me prendre au jeu et dire, allez, je vais essayer, je vais voir, je vais poser la question. Seigneur, si tu existes, parle-moi. J'ai plusieurs témoignages en mémoire, mais je vais vous en citer juste un. Celui de mon père, qui ne croyait pas en Dieu. Qui, quand sa mère lui parlait de Dieu, lui rigolait et lui disait, ben, regarde, où est Dieu? Papa est tombé d'une échelle, il ne peut plus travailler, j'ai dû arrêter mes études. C'est moi qui dois nourrir la famille. Où est Dieu? Jusqu'au jour où finalement ma grand-mère, la pauvre, elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle croyait en Dieu. Elle avait l'essentiel. En voyant mon père entrer à la maison, il dit, viens, j'ai quelque chose à te montrer, viens avec moi. Et il le ramène chez la voisine, et cette voisine était en chaise roulante depuis des années. Et finalement, quand il arrive sur place, il retrouve cette femme debout. Et il dit, tu vois, on a prié, et Jésus l'a relevée. Et là, il ne pouvait plus dire, non, c'est pas vrai, il y a quand même quelque chose. Et ma grand-mère, avec le peu qu'elle pouvait savoir ou dire, elle dit, mais est-ce que tu oseras, toi, dire à Dieu, si tu existes, montre-toi? Et vous savez, mon père, jeune, comme on l'a été un peu tous, en se disant, j'aurai encore raison, et je pourrai me garder neutre de toutes ces choses-là. Mais il fera cette prière en disant, oh Dieu, si tu existes, ben alors révèle-toi à moi. Et il rentra dans sa chambre, il s'est allongé sur son lit, il a allumé sa cigarette, il ferme les yeux et il voit une croix lumineuse, et il entend une voix qui lui dit, voici le chemin, marche-y. Il m'a dit, je n'ai jamais couru aussi vite que ça. Il est parti de sa chambre en courant. Ma grand-mère, il ne savait pas ce qui lui arrivait. Et il dit, toutes les fois que je revenais à la maison, que je m'installais sur mon lit, que je fermais les yeux, je revoyais cette croix. Et j'entendais, même si la voix elle ne retentissait pas, j'entendais encore cette invitation. Voici le chemin, marchez-y. Jusqu'au moment où j'ai cédé, j'ai dû dire, Dieu existe. Et il a donné son cœur au Seigneur. Alors, faites-le. Êtes-vous prêt à prendre le risque? Mais le risque est merveilleux, je peux vous dire. La preuve en est que je me tiens devant vous et c'est aussi parce que le Seigneur a touché le cœur de mes parents. Ce n'est pas la religion de mes parents. Moi aussi, j'ai fait mon lot de bêtises. Et je sais que si mes parents n'avaient pas été attachés au Seigneur, aujourd'hui, je ne serais pas là devant vous. Je peux qu'en remercier Dieu d'avoir touché le cœur de mes parents. Et je suis certain qu'un jour, même vos enfants et vos petits-enfants, ils remercieront Dieu du bon choix que vous avez fait. Alors, faites le bon choix. On va fermer nos yeux.